Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Nicolas Jeanneter, élu Les Centristes au Conseil de Paris, vice-président du groupe Changer Paris, en charge de la sécurité à la mairie du 15e arrondissement. Bonsoir.
Bonsoir Loïc Barrière.
Alors, la rentrée est marquée par les inquiétudes des Français pour leur pouvoir d'achat. Il y a aussi la crise de l'énergie avec cette question. Y aura-t-il des coupures de gaz et d'électricité cet hiver? Emmanuel Macron nous a appelés à nous préparer à la fin de l'abondance. Une rentrée anxiogène donc, puisque vendredi, il y a un conseil de défense sur l'énergie et ça nous rappelle la méthode adoptée pendant la crise sanitaire. Qu'attendez-vous du gouvernement face à toutes ces inquiétudes?
Alors d'abord, les inquiétudes sont justifiées. Une inflation en hausse, un pouvoir d'achat en baisse, notamment dû aux conséquences de l'arrêt de l'économie pendant la période Covid. Hein, l'économie mondiale s'est arrêtée et aujourd'hui, bien évidemment, quand elle repart, il y a une hausse des prix d'essence, il y a un manque de matières premières. À cela s'ajoute la guerre en Ukraine avec un manque de matières premières. Oui, effectivement, il y a aujourd'hui une crise. Mais il y a aussi une certaine mise en scène du président de la République. Je dirais presque un peu du chantage. C'est-à-dire, au lieu de rassurer les Français, c'est quand même le rôle du chef de l'État, il nous parle de guerre. Comme si d'ailleurs le président de la République ne savait que gouverner par la peur. Il y a eu la guerre contre le Covid, c'est une réalité, la guerre en Ukraine, et maintenant voilà la guerre contre l'énergie. Et on a l'impression que ce président... Et ça a d'ailleurs été le cas lors du discours de Bormes-les-Mimosas, ne donne pas le cap. Il ne sait gouverner qu'au jour le jour, sans anticipation, et on a l'impression que être en guerre, entre guillemets, lui convient parfaitement, parce qu'à chaque fois, finalement, quand on est en guerre, on en sort, et le président en sort vainqueur. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé avec le Covid, parce que on oublie que le Covid, le début de la crise Covid, a quand même été très mal géré avec les masques et les centres de vaccination, même si la deuxième partie a été bonne, et finalement, la guerre a été gagnée contre le Covid, et indirectement, le président a gagné. Mais, excusez-moi, Loïc Barrière, la crise de l'énergie, qui est responsable? Qui a fermé Fessenheim? Qui, aujourd'hui, fait que 32 réacteurs sur 56, je crois, sont à l'arrêt? Qui fait qu'aujourd'hui, une grande partie de notre gaz est importée de Russie. C'est la faute du chef de l'État qui, pendant son premier quinquennat, avait d'ailleurs notamment comme ministre Nicolas Hulot, et a mené une politique énergétique un peu en zigzag. Donc, tout ça n'est pas très sérieux. Il y a eu un manque d'anticipation, il fallait développer, bien évidemment, les énergies renouvelables, mais aujourd'hui, on se trouve devant le fait établi. Donc, oui, Macron arrive toujours, comme vous le dites, à entretenir un sentiment d'oxygène, mais sa marque de fabrique, ça suffit maintenant au travail et trouvons des solutions.
Alors parmi les solutions, le gouvernement veut rationner éventuellement, puisque ça n'est pas fait, en priorité les entreprises si l'on devait manquer de gaz ou d'électricité. Il a raison d'abord de penser aux entreprises avant les particuliers.
D'abord, il faut éviter de rationner. Bon, et il faut éviter ces coupures. On est quand même la 7e puissance mondiale. On va pas quand même couper l'électricité en France, que ce soit aux particuliers ou aux entreprises. Bon, et fermer l'électricité pour les entreprises, mais sur quel jugement? Sur quelle entreprise? Vous imaginez un boulanger, la nuit, se voir fermer son électricité? Vous voyez certaines grandes entreprises qui fonctionnent 24 sur 24, fermer l'électricité la nuit. Oui, fermer l'électricité, même des supermarchés d'ailleurs. Souvent, ils sont ouverts très tôt le matin pour remplir les rayons. Évitons d'en arriver là, tout simplement.
Est-ce qu'on peut aller vers une forme de sobriété sans basculer dans la décroissance?
Oui, il faut une sobriété. Il y a une nouvelle génération, il y a une nouvelle donne, le pays a changé, le monde change, le climat change, donc il faut tous avoir un peu plus de sobriété, bien évidemment. Mais bien évidemment, sans décroissance. Je suis contre, et vous le savez, l'écologie punitive, qu'il suffit de punir, bien évidemment, ceux qui provoquent de la croissance. Il faut le faire avec les entreprises, avec intelligence, et je pense qu'on y arrivera facilement.
Alors parlons du pouvoir d'achat. Des mesures ont été votées par le Parlement avant les vacances. Est-ce que vous avez le sentiment que ces mesures seront suffisantes pour faire face à l'inflation ?
Oui, je pense que les mesures qui ont été adoptées, et d'ailleurs beaucoup grâce à l'opposition, hein, vous l'avez vu, qui a beaucoup enrichi les propositions du gouvernement, pour l'instant, je pense, sont à même de répondre immédiatement à l'inflation et à la baisse du pouvoir d'achat. Après, il y a des mesures beaucoup plus générales à prendre, et je le dis depuis très longtemps. Quand est-ce qu'on augmentera l'ensemble des salaires en France ? Et je ne parle pas seulement du SMIC, mais l'ensemble des salaires, pour qu'il y ait plus de pouvoir d'achat, plus de croissance. Il ne faut pas seulement donner des chèques aux plus démunis, à ceux qui en ont besoin. Il faut augmenter d'une façon générale l'ensemble des salaires pour que tout le monde en profite et tout le monde puisse consommer.
Nicolas Jeanneteau, il y a quelques jours, vous qui êtes un homme du centre droit et Rachida Dati, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, vous vous êtes rendu à Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence, aux universités d'été de la France insoumise.
Ça a amusé beaucoup le monde. Oui.
Voilà, vous êtes très différents politiquement. Comment s'est passée cette rencontre entre Rachida Dati et les militants de la France insoumise ?
D'abord, nous avons été invités, Rachida Dati, a été invité, et vous savez, je crois que dans une société aussi fracturée que la nôtre, on le voit d'ailleurs à l'Assemblée nationale, entre la France insoumise, le Rassemblement national, la République en marche, etc., on a vraiment une société très fracturée. Il faut absolument dialoguer. Moi, comme Rachida Dati, nous adorons le débat d'idées, la confrontation des idées, et dans une société, encore une fois, fermée, il faut dialoguer. Donc nous avons, elle a accepté, bien évidemment, de se rendre, comme d'autres d'ailleurs, à cette université d'été, même si quelques critiques ont été émises ici et là en disant « ben en y allant, vous normalisez la France insoumise ». On y a été, notamment sur un sujet, moi qui lui est cher bien évidemment en tant qu'ancienne ministre, ancienne garde des Sceaux et moi qui me cher aussi, c'est la justice. Voilà. Alors, l'accueil a été, et vous l'avez vu, formidable, surtout pour elle bien évidemment, moi j'étais en retrait. D'ailleurs, ça m'a énormément, et ça a d'ailleurs énormément surpris les organisateurs, puisque vous l'avez vu dans les reportages de la télévision, c'était sûrement la star de ces universités. Je n'aurais jamais imaginé à la fin d'un débat que des centaines d'insoumis fassent la queue pour lui demander un selfie. Bon, ça c'est le côté un peu mise en scène de tout ça. Après, sur le fond, on a eu un débat très intéressant avec Hugo Bernalicis sur la justice, avec un constat qui est à peu près le même, hein, une justice complètement en plein délabrement, avec de manque de magistrats, manque de greffiers, etc., une justice beaucoup trop lente, bon, mais bien évidemment, les mesures à prendre n'étaient pas les mêmes. Je vous prends deux exemples comme ça rapidement qui me viennent en tête, mais sur le manque de magistrats, Hugo Bernalicis dit il faut augmenter le nombre de greffiers. Un greffier, pour moi, il prend des notes, il rédige des PV, mais il ne mène pas d'enquête. Et à cela, Rachida Dati a répondu non, il faut surtout créer des postes d'assistants de magistrats pour rompre la solitude du juge. Pareil, sur bien évidemment les prisons. Forcément, la France insoumise ne veut pas construire de prisons. Elle veut les rénover, comme nous d'ailleurs, mais elle ne veut pas en construire de supplémentaires parce qu'elle veut absolument proposer des peines alternatives. Nous, on dit, oui, il faut développer les peines alternatives, notamment les travaux d'intérêt généraux qui sont pas assez étendus et pas assez suivis, mais il faut construire des nouvelles places de prison. Ça, c'est le grand problème de la France. Moi, je vais même très loin. Je dis qu'il faut que toutes les peines de prison d'un an soient de toute façon exécutées et qu'il faut supprimer le mot sursis dans les jugements qui sont rendus. Donc voilà, il y avait plein de différences. Il y a d'ailleurs un point de différence d'ailleurs qui m'a un peu interpellé, qui était très vague, bien évidemment dans leur état d'esprit, c'est leur fameux 6e République, et ils veulent que chaque année, le Parlement vote une loi d'orientation politique, justice pénale et civile. En clair, ils voudraient, mais pour être très clair, que le Parlement vote l'échelle des peines. Bon, et ça pour nous, il n'en est pas question, c'est pas au Parlement de voter l'échelle des peines, parce que si demain on a une Assemblée nationale ou un gouvernement, Rassemblement national par exemple, c'est pas au gouvernement ni au Parlement d'établir l'échelle des peines. Voilà. Donc il y avait bien évidemment les grosses différences, mais ce n'est pas grave, il faut, c'est en s'écoutant parler, qu'on s'enrichit, qu'on peut trouver éventuellement des points de consensus et faire avancer bien évidemment la société.
Nicolas Jeanneteix, selon une enquête de l'IFOP pour le Journal du Dimanche, 75% des Français affirment que le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité est négatif. Comment interprétez-vous cette appréciation des Français ?
On vient d'en parler. La réponse est encore un problème de la justice. Et déjà, Darmanin, je dirais, fait le job pour l'instant. On aura beau mettre des policiers partout. Il a annoncé d'ailleurs pour Paris, je crois, 1000 policiers et 500 caméras supplémentaires. Mais ce n'est pas en rajoutant des policiers qu'on résoudra le problème. On a besoin, en mettant des unités mobiles comme il veut le faire, ou même en instaurant, sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, la police du chiffre. Tout ça ne sert à rien si la justice ne suit pas derrière, à la fois en termes de rapidité et de sécurité. Et là, je dis, il faut absolument que Darmanin et Dupond-Moretti se parlent et travaillent ensemble. Mais ça a l'air d'être la guerre ensemble. Donc, ils ne se parlent pas, ils ne travaillent pas ensemble. Donc, il faut absolument que la justice aille plus vite, que les peines soient plus sévères. Vous savez, vous avez beau arrêter plein de gens, si on ne peut pas les mettre en prison, ou si on met 6 mois, 1 an, 3 ans à les juger, ça ne sert strictement à rien. Donc je pense aujourd'hui que la justice en France est en panne. On a eu des états généraux de la justice qui se sont déroulés l'année dernière. Le 8 juillet, de façon un peu secrète, un rapport a été rendu, et donc les états généraux doivent reprendre rapidement, mais le rapport est clair. Il manque des magistrats, il manque des greffiers, il manque des assistants juridictionnels, il manque des tribunaux rénovés, et tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas rendre une justice en France, et on aura beau arrêter tout le monde, ça ne sert à rien.
Nicolas Jeanneteix, Paris est classé comme la ville la plus dangereuse de France, avant Marseille et Lyon. A contrario, des villes comme Aurillac, Cherbourg ou Rodez sont considérées comme sûres. Qu'attendez-vous du nouveau préfet Laurent Nunez pour améliorer la sécurité à Paris ?
Oui, Paris est effectivement la capitale la plus criminogène de France, mais bon, c'est aussi la capitale. Donc elle attire à la fois les honnêtes gens et ceux qui veulent créer des entreprises, créer une richesse, mais forcément une capitale attire aussi les voyous. Il y a deux choses sur lesquelles qui posent problème à Paris. D'abord, il manque une vraie police municipale formée et armée pour aider la police nationale, puisqu'il n'y a pas assez de policiers en France. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à Paris, c'est pour ça d'ailleurs que Darmanin a rajouté, annoncé l'ajout de 1000 policiers supplémentaires. Il manque beaucoup de PJ, les officiers de police judiciaire à Paris. C'est pour ça que les dossiers s'accumulent. Un officier de police judiciaire, c'est très important, parce que c'est lui qui instruit l'enquête. Donc, s'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de justice ensuite rendue. Donc, on revient, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Bon, ça, c'est le premier problème. Et ça, c'est la gauche qui, pendant des années et des années, n'a jamais voulu de police municipale. Et elle est importante, on le voit à Nice, ou on le voit à Cannes ou ailleurs. C'est important, le fonctionnement police municipale, police nationale. Puis deuxièmement, il y a un problème plus général, c'est celui de la ghettoisation de certains quartiers de Paris. Et ça, c'est la gauche. On a voulu transformer certains quartiers en territoires isolés et fermés. Alors, c'était sous un prétexte de solidarité, mais en fait aussi un prétexte électoral. On a créé des barres d'immeubles pour loger les familles les plus pauvres, aux revenus les plus faibles. Alors que c'est tout le contraire qu'il fallait faire. Il faut aujourd'hui une mixité sociale. Il faut, avec les faibles revenus, y accueillir aussi des familles à revenus plus élevés. Et puis moi, ma réponse, c'est surtout qu'il faut, de façon intelligente et isolée, créer des immeubles HLM un peu partout dans Paris pour les intégrer dans les quartiers et pas les parquer, je dirais, aux abords du périphérique. Et là, il faut une vraie loi, je pense, de programmation de la ville, comme à l'époque de Borloo, qui manque dans ce gouvernement.
Alors, depuis cette semaine, Nicolas Jeanneteix, les propriétaires de deux roues thermiques doivent payer pour avoir le droit de stationner à Paris.
Ah, m'en parlez pas.
Que pensez-vous de cette mesure décidée par Anne Hidalgo et son adjoint, David Belliard?
M'en parlez pas, parce que, pour la petite histoire, j'ai deux scooters, mon fils en a un. Moi aussi, on s'en sert peu parce que moi je suis plutôt à vélo, mais j'ai quand même deux scooters dont je me sers pour aller pour des distances un peu plus grandes dans Paris ou quand je suis en retard, et je ne sais pas quoi en faire parce que j'ai pas envie de payer, et donc je vais essayer de les vendre sur le bon coin pour à des habitants de province, mais je suis assez embêté. Non, plus sérieusement, sur le principe, je ne suis pas contre. Et d'ailleurs, dans le programme municipal, en tout cas nous, des centristes, on l'avait indiqué, mais à un taux beaucoup plus faible. Moi, dans la proposition que j'avais faite au dernier municipal, c'était 15 euros par mois, ce qui faisait en gros 180 euros par an, et ça avait pour but d'éviter les scooters, les motos endormis, ou ceux qui étaient là parqués un peu n'importe comment. Non, le prix est effectivement exorbitant aujourd'hui. On sera pour un résident quand même autour de 300 euros, ce qui est quand même pas rien dans les budgets, et surtout pour celui qui habite la proche banlieue et qui vient travailler à Paris, on est autour de 3200 euros, ce qui est invraisemblable. Aujourd'hui, Anne Hidalgo et David Belliard oublient complètement que Paris est quand même la capitale culturelle et économique de la France et que ces gens-là n'ont pas envie forcément de prendre les transports en commun, et je les comprends au vu de l'état de délabrement du réseau RER, ferroviaire et du métro. Et puis, ils n'ont pas envie d'aller, ils n'ont pas les moyens non plus d'aller en voiture. Donc, la moto ou le scooter est un seul moyen. Donc, je le déplore. Je ne suis pas contre sur le principe, mais le prix est bien évidemment très élevé. Alors, les plus médisants vont dire, c'est pour enflouer bien évidemment la caisse de la ville de Paris, qui est, vous le savez, très très endettée. Je ne serai pas aussi mauvaise langue qu'eux, mais j'y pense un peu.
Il y a aussi, à terme, l'interdiction de tous les véhicules thermiques à Paris. Je crois que ce sera le cas en 2024 pour les véhicules critères 2. Vous redoutez notamment de voir les théâtres ne plus pouvoir travailler faute de spectateurs venus de province et, ou de banlieue ?
Bien sûr, cette réforme-là, ça devait intervenir en 2025. Bon, Paris et la métropole d'ailleurs, la métropole ont pris la décision de l'avancer à 2024. Ce que je ne comprends pas, c'est comment aujourd'hui l'État peut laisser commercialiser des véhicules diesel. Encore aujourd'hui, on peut en acheter. Donc je ne comprends pas cette politique de l'État qui est où on veut interdire effectivement l'entrée des véhicules diesel dans les villes, mais en même temps, on vend des véhicules diesel. Il y a deux catégories que ça va effectivement pénaliser. Vous parliez effectivement de ceux qui habitent la proche banlieue, la province, qui ont des véhicules diesel parce que ça coûte moins cher, qui ne pourront pas aller au théâtre ou faire le shopping le week-end, d'abord parce qu'ils ont un véhicule diesel, et deuxièmement, de toute façon, ils ne pourront pas parce que le prix du stationnement payant même des voitures est tellement exorbitant qu'une place de stationnement vaut trois fois une place de théâtre. Vous imaginez que là, les provinciaux ou ceux qui habitent dans la banlieue ne voudront jamais venir à Paris en voiture. Et puis deuxièmement, ça va aussi pénaliser beaucoup les artisans. Il y a de moins en moins d'artisans à Paris. Beaucoup, pour des problèmes aussi d'entrepôts, etc., habitent en proche banlieue. Les artisans sont équipés de véhicules diesel. Et déjà, beaucoup de Parisiens se plaignent de ne pas trouver de plombiers, d'électriciens, de vitriers, parce qu'ils ne veulent plus venir. Ça coûte trop cher, ils peuvent pas se garer, parce que pour eux aussi, ça coûte très cher. Si en plus, on leur interdit l'entrée de la ville de Paris parce qu'ils ont des véhicules diesel, mais attendez, tous les Parisiens vont sur Paris. Ils le sont déjà, les écoles ferment, mais Paris va devenir invivable, et ça, on n'en veut pas.
Merci Nicolas Jeanneter, je rappelle que vous êtes élu Les Centristes au Conseil de Paris, vice-président du groupe Changer Paris, et vous êtes en charge de la sécurité à la mairie du 15e arrondissement. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.